nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Depuis le 1er juillet 2008 et pendant les 6 mois qui suivent, la France prend la présidence de l'Union européenne. Une présidence française qui soutient la création de l'espace méditerranéen de la science, un projet dont la pierre fondatrice a été posée à Paris, à l'Institut de France, le 26 juin 2008, réunissant pas moins de 120 scientifiques et académiciens de 20 pays du monde méditerranéen. En quoi consiste cet espace méditerranéen de la science? Quels sont ses projets? Quel est son budget? Et quels sont ces 20 pays? Pour répondre à nos questions, André Capron est avec nous en studio. Monsieur, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences, membre également de l'Académie nationale de médecine et président du GIDE, groupe interacadémique pour le développement, groupe qui est à l'origine de cette réunion de ces académies étrangères. Ma première question, André Capron, sera certainement provocatrice. Un espace méditerranéen de la science, pourquoi faire ?
Je crois que la réponse tient en peu de mots et s'inscrit en fait dans l'histoire. Tous ceux qui ont suivi les différentes étapes de la construction européenne ont pu remarquer combien le processus de Barcelone, puisqu'on l'appelle ainsi, avait pratiquement négligé entièrement la science comme l'un des objectifs importants de cette construction, au point que le mot ne figure même pas dans les accords.
Donc le processus de Barcelone date de 1995, hein, c'est ça ?
Et il est apparu indispensable à la veille, et nous sommes maintenant dans cette actualité, de la rencontre des chefs d'État de la Méditerranée, mais également de l'ensemble des pays européens, puisqu'ils sont tous présents, de réhabiliter l'un des facteurs essentiels du développement des pays en émergence, qui est celui de la science et de la technologie, jusqu'à présent absente des recommandations et des discussions politiques. Et c'est cette réflexion qui nous a conduit à suggérer que dans le contexte et le cadre général de la conférence des chefs d'État se tienne une première étape de cette construction d'un espace scientifique méditerranéen, d'un espace méditerranéen de la science, comme élément fondamental du développement durable de cette région, comme élément essentiel de progrès social et économique, et le dirais-je aussi, comme élément fédérateur de l'ensemble des projets de cette région méditerranéenne au plan scientifique. Et c'est dans ces contextes qu'est né ce projet, qui de tout de suite, je dois le dire, a été favorablement accueilli et considéré par l'Élysée, et notamment par le conseiller spécial du président, Henri Guénaud. Nous avons très vite été orientés dans nos travaux vers la mission de l'Union pour la Méditerranée qui était présidée par l'ambassadeur Alain Leroy. Et c'est donc en collaboration très étroite avec cette mission et le ministère des Affaires étrangères que nous avons construit l'ensemble de cette conférence et qui a été composée de deux temps essentiels, dirais-je. Un premier temps scientifique et technique représenté par trois grands ateliers. Ateliers qui touchent d'une part au problème de l'agriculture et du développement durable, le second des ressources halieutiques et de l'environnement marin, le troisième des changements climatiques et des adaptations.
Alors nous aurons l'occasion d'en reparler. Juste avant, pour revenir sur les pays qui ont participé à cette réunion, on peut voir bien sûr la France, mais également donc l'autorité palestinienne, Israël, le Liban, la Syrie. Faisait-elle partie des pays représentés au cours de ces réunions ?
Alors il faut dire, pour comprendre les subtilités d'organisation de cette rencontre, que d'une part, le premier grand succès, un peu inespéré, je dois le dire, a été la très grande participation, puisque 21 pays étaient représentés, soit la quasi-totalité des pays méditerranéens. Mais au sein de ces pays et au sein de cette représentation, nous avons voulu, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, dans le cadre des activités du GIDE, constituer et mettre sur table ou sur pied le premier réseau interacadémique méditerranéen. Et de ce point de vue, nous avons été également privilégiés, puisque 17 académies de la région méditerranéenne étaient présents, dont, et c'est notable, l'Académie des sciences d'Israël, l'Académie de Palestine, l'Académie de Grèce, celle de Turquie, et ceci illustre, je crois, très bien le caractère très écuménique, si j'ose dire, de cette rencontre.
Donc on fait fi des questions politiques entre chaque pays.
Écoutez, je peux témoigner, et tous ceux qui étaient présents peuvent le faire aussi, qu'il n'y a eu aucun incident, ni allusion, ni propos, ni attitude, qui ait été le témoignage d'une volonté d'exclusion. Et je crois que de ce point de vue, ici encore, je crois que c'est un succès très important et qui peut-être n'était pas espéré autant, mais en tout cas, il l'a été.
Revenons aux ateliers. Donc, vous avez cité trois ateliers, les trois ateliers qui ont lieu au cours de ces trois jours. Donc, le premier, agriculture et développement, le deuxième, halieutique et environnement marin, le troisième, impact du changement climatique et adaptation. Vous avez parlé, j'imagine, de l'agriculture biologique, des OGM, des biocarburants dans ce premier atelier, agriculture et développement durable.
Absolument. Mais plutôt que d'aller, si vous me permettez, dans le détail des analyses scientifiques et techniques, j'aimerais retirer ce qui nous est apparu à tous comme un message absolument essentiel si on se replace dans la finalité de cette conférence et de sa tenue dans le contexte de cette rencontre des chefs d'État méditerranéens. Ce qui, je crois, a été particulièrement frappant dès les premières heures, pratiquement, a été l'expression unanime de la volonté de cette communauté scientifique, représentant quand même 21 pays, de travailler ensemble et d'exprimer une solidarité de projet comme une obligation fondamentale à la construction de cet espace méditerranéen de la science.
Alors, travailler dans quel domaine, par exemple ?
Alors, prenons l'exemple, si vous voulez bien, des écosystèmes marins, toutes les mesures qu'il est nécessaire de mettre en place pour renforcer les systèmes d'information, pour mettre en place une véritable réhabilitation de l'environnement et une lutte contre la pollution en Méditerranée. Il y a eu une volonté très claire d'exprimer, à la fois au travers des messages scientifiques, mais également de leur insertion dans le contexte sociétal et politique, une volonté absolue que ça se fasse sur la base d'une solidarité de projet. Et je crois que c'est là aussi l'un des événements les plus importants. Je dirais d'ailleurs que l'ensemble des rapports qui ont été présentés et des conclusions qui ont été énoncées à l'issue de ces ateliers illustrent quelque chose qui m'apparaît essentiel et que je crois tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre. D'abord, c'est que nous nous trouvons en présence d'une région, c'est un véritable conservatoire biogénétique et qui est unique au monde par la diversité des espèces aussi bien animal que végétal.
Donc le pourtour méditerranéen.
Voilà. Et deuxièmement, et c'est l'aspect dual de cette région, le deuxième aspect très important, qui n'est pas contradictoire, c'est qu'en même temps, il représente, à cause de cette solidarité exprimée de toute cette région, des pays de cette région, un laboratoire exemplaire de développement concerté ou de co-développement et qui a une valeur universelle. Car les problèmes qui sont abordés dans cette conférence, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse de la maîtrise des risques, qu'il s'agisse des écosystèmes marins, ou qu'il s'agisse dans le domaine des climats d'une coordination régionale, en fait ne sont que le reflet de préoccupations qui sont d'une dimension mondiale, et où là la Méditerranée peut jouer un rôle de laboratoire, avec en grandeur nature, où pourront être étudiées, testées, analysées, à la fois les données et les résultats d'une politique de recherche dans ces domaines.
Alors, à l'issue de ces trois jours, puisque vous êtes réunis pendant trois jours, est-ce qu'il y a des choses qui ont été signées, qui ont été entérinées ?
Je n'aimerais pas mettre cette conférence sur la même tonalité que celle auxquelles vous faites allusion. Nous sommes trop habitués aux traités, aux accords, aux conventions, dont on sait fort bien qu'elles ne conduisent, hélas, parfois nulle part. Et quand je dis hélas, c'est un euphémisme. Je dirais plutôt que ce qui était important, c'est d'apporter au monde politique, qui va se réunir au plus haut niveau des États, un véritable témoignage d'une volonté de la communauté scientifique, représentée à son plus haut niveau. 17 académies, 21 pays, 120 scientifiques, directeurs d'organismes de recherche, prestigieux d'ailleurs, qu'il s'agisse des organismes français qui étaient là, ou des organismes étrangers. Ce témoignage m'apparaît absolument essentiel par le biais des recommandations qu'il implique, par le biais du signal d'alarme qu'il met en place pour que soient sensibilisés les politiques et que, je l'espère, enfin, le mot de science apparaisse dans leurs préoccupations et qu'il soit, je crois, l'un des substrats essentiels des accords futurs qui vont présider à la construction de l'Union pour la Méditerranée.
Mais alors, pardonnez-moi d'insister, mais n'est-ce pas un cri d'alarme supplémentaire qui s'ajoute, par exemple, dans le cadre du réchauffement climatique, qui s'ajoute aux recommandations que font le GIEC, par exemple?
Je ne le crois pas. Je crois que ce serait réduire à une dimension, à mon avis, infime, la réalité d'une grande réussite. Parce que, et je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler, cette conférence n'est que la première d'une série de conférences qui va avoir lieu. La raison en est que, sous-tendant les thèmes spécifiques que j'ai évoqués, on a pu noter qu'il y a des enjeux transversaux beaucoup plus importants, la santé par exemple, et vous ne serez pas étonné si la prochaine conférence qui va avoir lieu en Italie, puisque c'est les Italiens l'Académie italienne qui va prendre notre relais, sera consacrée à la santé publique. Vous ne serez pas non plus étonné si la troisième conférence, qui va avoir lieu à Alexandrie et qui va être pilotée, organisée par la bibliothèque alexandrine, va concerner un des caractères que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité biologique et culturelle de cette région. Donc la volonté est de construire, à partir d'une réflexion scientifique ordonnée et structurée, un programme de recherche, une action de recherche. Et c'est là où on retrouve votre volonté exprimée d'une action concrète. Cette volonté de recherche, elle va s'exprimer dans un programme que nous avons mis en place, qui s'appelle le programme Parménides, et qui va s'articuler sur ces trois piliers que je viens d'analyser pour vous, et dont nous espérons, car les négociations sont en cours, qu'il sera reconnu comme un outil indispensable par la Commission de l'Union européenne, et permettra en particulier de recevoir des financements importants, notamment de l'Union européenne, sous la forme de ce qu'on appelle les ERANET ou ERANET+, c'est-à-dire ces réseaux internationaux qui traitent de très grands dossiers, avec d'une part une participation des États, mais une complémentation importante et significative de la Commission de l'Union européenne. Donc, j'ai répondu à deux questions que vous avez voulu poser, à savoir... Sur quoi tout cela débouche-t-il?
Oui.
Et quels sont les budgets? Alors, les budgets, pour ce qui nous concerne, l'organisation de la conférence, qui a été une organisation très forte et très solide, a été fort heureusement prise en compte par la présidence française de l'Union européenne.
De l'Union européenne.
Et avec l'aide de la mission, et aussi par toute une série d'aides annexes qui ont permis de boucler un budget qui était, évidemment, vous le devinez, un peu contraint. Mais nous sommes habitués à la gestion des budgets contraints.
Parlons quand même du groupe interacadémique pour le développement, le GIDE, que vous présidez et qui est à l'origine de cette réunion de ces 120 scientifiques ici à l'Institut de France. Depuis combien de temps le GIDE existe-t-il et quelles sont ses missions qui, j'imagine, sont peut-être un peu plus élargies?
Tout à fait. Le GIDE est né il y a 3 ans à l'issue d'une réflexion qui avait été menée, là encore, au plus haut niveau de l'État, sur la nécessaire cohérence non seulement des réflexions, mais des actions à entreprendre au plan national, et vous le verrez très rapidement au plan international, dans la conduite de grands programmes qui concourent au développement des pays en développement et des pays en émergence. Et donc, j'ai pris l'initiative, effectivement, de prendre contact avec toute une série de confrères d'autres académies pour donner à ce groupe interacadémique à la fois l'interdisciplinarité qui est nécessaire, une vision par conséquent très interactive entre les aspects sociologiques, les aspects médicaux, les aspects agricoles, la science fondamentale, et avoir, si vous voulez, cette vision intégrée qui jusqu'à présent, je le crois, manquait beaucoup à l'ensemble de ces programmes de développement, qu'il s'agisse de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture, pour n'en citer que trois ou quatre. Et très vite, ce concept a eu du succès. Nous avons en particulier, lors de la première rencontre fondatrice qui a eu lieu en mars 2007, jeté les bases d'un grand programme international qui s'appelle « Science, métiers et société », où vous voyez bien que la volonté est d'associer à un contenu scientifique très fort les dimensions sociales d'une activité et d'une profession. La raison de tout cela est le constat fait par tout le monde que une des raisons des échecs des grands programmes internationaux, même financés à très haut niveau, est non seulement l'insuffisance quantitative, mais parfois, hélas, qualitative des cadres managériaux chargés de l'exécution de ces programmes, de leur continuité et de leur pérennité.
Vous pensez pouvoir répondre à cette notion?
Et nous pensons pouvoir à cette répondre. Nous avons organisé déjà un certain nombre de ces ateliers. Le dernier en date s'est tenu au Maroc, à Rabat sur l'énergie, a réuni des représentants et des cadres managériaux de haut niveau de 12 pays de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb, le but étant, si vous voulez, de poursuivre cette expérience et de l'étendre dans toute la région méditerranéenne maintenant, dans tous les domaines qui concernent le développement. Le prochain d'entre eux, qui va être davantage axé sur les pays en développement africain, sera tenu à Bamako sur l'économie de la santé. Et il y en aura un autre qui suit, qui est en préparation à Dakar, sur l'alimentation. Bref, dans tous les domaines qui concernent, qui sont des problèmes aigus, si vous voulez, qui sous-tendent la politique du développement, notre but est, à la fois par l'apport des académies, la mise en place de sessions, de cours, véritablement, de haut niveau, de formation de haut niveau, et leur insertion dans la réalité du terrain et les exigences sociales, mais aussi les priorités politiques nationales, de faire en sorte que nous atteignions ce qui semblait peut-être un rêve, mais que j'espère on est en train de réaliser, et qui est l'intégration et l'adéquation de la formation de haut niveau aux grands objectifs et aux grandes priorités d'un pays.
Vous avez cité le Maroc, le Mali, on reste dans les pays francophones?
C'est une remarque intéressante et c'est vrai. C'est vrai parce que, pour des raisons d'ailleurs que vous comprenez bien, et de facilité d'organisation, nous avons été davantage attirés, au moins, il y avait déjà suffisamment de difficultés pour en rajouter d'autres, et nous avons été attirés vers les pays francophones. Ça ne veut pas dire qu'on restera dans cette tonalité un peu exclusive pour le moment, et j'espère qu'en particulier l'adhésion très forte que nous ont manifesté les pays tels l'Espagne, le Portugal, permettront d'aller davantage, par exemple en Afrique, dans les pays hispanophones ou lusophones, bref, qu'on aura la possibilité de... Alors, vous me direz, tout cela est bien, mais il manque en tout cela, dans ce dispositif, peut-être, de grands partenaires européens comme les pays anglo-saxons, et vous auriez raison de le faire.
Mais je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez fait à ma place.
c'est un peu délibéré pour le moment. C'est un peu délibéré pour le moment, et sans qu'il y ait de ma part, vous le devinez bien, aucune réflexion d'ostracisme.
Donc vous ne réglez pas vos comptes. Hein? Vous non. Ne réglez pas vos comptes.
Non, il n'y a pas de ma part de réflexion d'ostracisme. Mais je constate quand même que dans ces domaines, de l'éducation, de la formation, de la vision sociale, la France, pour des raisons de culture et de pratique, a un regard tout à fait particulier. Et je ne voudrais pas que le début de cette aventure, qui est d'une très grande richesse, non seulement scientifique et technique, mais humaine et sociale, car elle porte un message, soit, je ne vais pas envoyer un mauvais terme qui serait désagréable, mais soit un peu dérivé de ses objectifs par les concepts d'une rationalité anglo-saxonne.
Vous voulez dire que la langue anglo-saxonne pourrait à terme rationaliser les principes, les concepts?
Plus la vision de ce que la science apporte dans les sociétés que les pays anglo-saxons ont, et dont on voit... Alors, je ne suis pas en train de faire des critiques, j'admire beaucoup tout ce que fait, par exemple, la Royal Society de Londres, ou l'Académie royale de Hollande, ou l'Académie royale de Suède, avec lequel nous entretenons de très bons rapports. Mais enfin, convenons que, même si le savoir est universel, ce qu'il est, même si la qualité scientifique et l'excellence restent une donnée universelle, convenons que chacune de ces académies porte quand même dans son identité le patrimoine culturel du pays qu'elle représente.
Eh bien, je vous remercie, André Capron, de nous avoir donné tous ces détails, aussi bien sur le GIDE que sur l'espace méditerranéen de la science. Quels sont les prochains rendez-vous pour le GIDE et pour l'espace méditerranéen de la science ?
Alors, pour le GIDE, je crois que les prochains rendez-vous, maintenant, c'est d'aller, à partir de cette ébauche, car ça n'est pas encore une structure complètement achevée, d'aller, à partir de cette ébauche, vers une fondation, je crois. Et d'en faire un outil de développement important.
Transformer cette association en fondation.
En fondation. Mm-hmm. Et de le faire, si vous voulez, avec des moyens adaptés à la vie d'une grande fondation. Et nous avons, dans ce contexte, procédé à la création d'un conseil de parrainage composé de très illustres personnalités du monde politique, du monde bancaire, du monde universitaire. Bref, de toute série de personnalités qui vont nous aider à mettre du pied. Et puis, je crois que la prochaine échéance, que je m'en voudrais de ne pas citer, car je dois redire ici toute la reconnaissance que j'ai au chancelier de l'Institut pour l'aide qu'il a apportée non seulement au principe de cette rencontre, mais à son organisation. Et je crois qu'il a été convaincu de l'importance de cette initiative et que se tiendra probablement en 2009, après cette première rencontre qui n'était qu'une prise de contact, une véritable réunion interacadémique méditerranéenne à l'Institut de France.
Eh bien, merci André Capron et j'espère à une prochaine fois pour le prochain rendez-vous de cet espace méditerranéen de la science. Merci beaucoup, au revoir.
Je vous en prie.